Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 3. Ces individus de ville et indignes conditions. Première partie. En 1676, 27 ans après sa fondation et un siècle avant qu'elle ne devienne le moteur de la Révolution américaine, la Virginie fut confrontée à une rébellion déclenchée par des Blancs vivant sur la frontière, qui furent rejoints plus tard par des esclaves et des serviteurs sous contrat. Une révolte si menaçante que le gouverneur fut contraint de fuir Jamestown, la capitale incendiée, et que l'Angleterre décida d'envoyer un millier de soldats outre-Atlantique dans l'espoir de maintenir l'ordre au sein de cette communauté d'environ 40 000 colons. C'est ce qu'on appelle la révolte de Bacon. La révolte de Bacon éclate à propos d'un conflit concernant la manière de traiter les Indiens qui représentait une menace pour ceux qui vivaient sur la frontière de l'Ouest. En effet, les colons blancs qui avaient été oubliés lors de la grande distribution foncière des environs de Jamestown étaient partis vers l'Ouest pour y trouver des terres. Là-bas, ils se trouvèrent confrontés aux Indiens. Ces Virginiens de la frontière reprochaient-ils aux politiciens et aux propriétaires terriens qui gouvernaient la colonie depuis Jamestown de les avoir d'abord contraints à partir, puis de sembler hésiter à les défendre contre les Indiens? Cela expliquerait en tout cas le caractère particulier de cette révolte, que l'on ne peut clairement qualifier d'anti-aristocratique ou d'anti-indienne, tant elle participe des deux. Quant au gouverneur William Berkeley et à ses collègues de Jamestown, se montraient-ils plus conciliants avec les Indiens, dont certains les servaient comme espions ou comme alliés, à présent qu'ils avaient eux-mêmes fait main basse sur les terres de l'Est et pouvaient se servir des Blancs de la frontière comme d'un rempart, préservant ainsi une paix nécessaire? Leur résolution de mettre fin à la révolte semble avoir eu deux motifs principaux. Mettre en place une politique indienne visant à diviser les tribus afin de mieux les contrôler. À cette époque, en Nouvelle-Angleterre, au cours de ce qu'on appelle la guerre du roi Philippe, Metacom, le fils du chef Massasoit, menaçait d'unir les tribus indiennes et ravageait certaines des colonies puritaines. Faire comprendre aux blancs pauvres de Virginie par les démonstrations de force, par le recours aux troupes anglaises elles-mêmes et par les pendaisons à la chaîne, que la révolte ne paie pas. La frontière avait connu une escalade de la violence avant même que la révolte n'éclate. Des Indiens d'Oex s'étaient emparés de quelques cochons en compensation d'une dette non acquittée. Les Blancs tuèrent deux Indiens en récupérant les bêtes. Les d'Oex envoyèrent alors un groupe de guerriers pour tuer un gardien de troupeau, après quoi une compagnie de miliciens tua à son tour 24 Indiens. Ce dernier épisode déclencha une série de raids de la part des d'Oex qui, trop peu nombreux, se lancèrent dans une sorte de guérilla. La Chambre des bourgeois de Jamestown déclara alors la guerre aux Indiens tout en proposant de protéger ceux d'entre eux qui accepteraient de coopérer. Cela semble avoir exaspéré les colons de la frontière qui, paradoxalement, préféraient une guerre totale contre les Indiens tout en supportant mal les impôts levés pour la financer. En 1676, les temps sont durs.
Il y avait une véritable détresse, une profonde pauvreté. Toutes les sources contemporaines évoquent les conditions économiques difficiles dans lesquelles vivait la très grande majorité des gens.
Écrit Wilcome Washburn, qui, au travers des registres coloniaux britanniques, s'est livré à une analyse approfondie de la révolte de Bacon. L'été avait été très sec, ruinant la récolte de maïs indispensable à la survie et la récolte du tabac destiné à l'exportation. Le gouverneur Berkeley, alors septuagénaire et fatigué des responsabilités, déplorait, avec une certaine lassitude, le sort du malheureux homme qui gouverne un peuple dont au moins 6 individus sur 7 sont pauvres, endettés, mécontents et armés. 6 individus sur 7. Cela suggère qu'il existait tout de même une classe supérieure relativement aisée. Tel était bien le cas, en effet, en Virginie. Bacon lui-même en était issu et possédait un bon bout de terre. Il était sans doute plus enthousiaste à l'idée de tuer les Indiens qu'à celle de jouer les redresseurs de tort au bénéfice des pauvres. Malgré cela, il devint le porte-parole du ressentiment de la majorité de ces pauvres à l'encontre de l'establishment virginien et fut élu, au printemps 1676, à la Chambre des bourgeois. Lorsqu'il prôna la mise en place, en dehors de tout contrôle officiel, de détachements armés pour combattre les Indiens, le gouverneur Berkeley l'accusa de rébellion et le fit emprisonner. Immédiatement, 2000 colons de Virginie marchèrent sur Jamestown pour lui apporter leur soutien. Berkeley fit libérer Bacon après une promesse de repentance publique. Mais Bacon s'échappa, reforma ses milices et se mit à harceler les Indiens. La déclaration du peuple, rédigée par Bacon en juillet 1676, présente un mélange de ressentiments populistes à l'encontre des riches et de cette haine des Indiens, caractéristique des habitants de la frontière. Il reprochait à l'administration Berkeley ses impôts injustes, son favoritisme, sa mainmise sur le commerce des fourrures et son abandon des fermiers confrontés aux Indiens. Bacon attaqua les Indiens Pamunkeys, généralement considérés comme inoffensifs, en tua 8, fit des prisonniers et s'empara de leurs biens. Virginie présentait un engrenage complexe de forces oppressives. Les Indiens étaient pillés par les fermiers de la frontière, lesquels étaient exploités et fermement contrôlés par l'élite de Jamestown. Quant à la colonie dans son ensemble, elle était la proie de l'Angleterre, qui dictait le prix auquel elle achetait le tabac des colons, rapportant quelques 100 000 livres par an au roi. Les serviteurs qui participèrent à la révolte de Bacon appartenaient à cette vaste sous-classe de blancs misérables dont les administrations des cités européennes, où ils avaient vécu avant de s'installer dans les colonies d'Amérique du Nord, souhaitaient se débarrasser. En Angleterre, le développement du commerce et du capitalisme au XVIe et XVIIe siècle et l'enclosure des terres pour rentabiliser la production de laine provoquèrent un afflux de pauvres airs dans les villes. Sous le règne de la reine Élisabeth, des lois furent votées afin de les punir, de les faire travailler dans des hospices ou de les exiler. La définition élisabéthaine des scélérats et vagabonds comprenait
« Toute personne qui se prétend étudiant, mais mendie dans les rues. Les malins qui, sous prétexte d'avoir tout perdu, y compris leur navire en mer, vont mendiants à travers le pays. Tout individu oisif, errant dans le pays, soit en mendiant, soit en usant de subterfuges, ou en organisant des paris illégaux. Musiciens et ménestrels errant de ci de là, tous les vagabonds et travailleurs ordinaires, parfaitement valides, mais passant leur journée dans l'oisiveté, ou refusant de travailler pour les salaires raisonnables communément pratiqués. »
De tels individus, pris en flagrant délit de mendicité, pouvaient se voir saisis, dénudés jusqu'à la taille et fouettés jusqu'au sang, ou bien encore expulsés de la ville, internés dans des hospices ou déportés. Au XVIe et XVIIe siècle, par l'exil forcé, par tromperie, promesse, mensonge, enlèvement, ou motivés par l'urgente nécessité d'échapper aux dures conditions de vie de la mère patrie, les pauvres gens désireux de s'expatrier en Amérique constituèrent une source de profit pour les marchands, les négociants, les capitaines de navires, et finalement pour leurs maîtres américains. Abbott Smith, dans son étude de la domesticité sous contrat, Colonists in Bondage, affirme que
parmi l'ensemble complexe des forces qui motivèrent l'émigration vers les colonies américaines, il en est une qui apparaît clairement comme la plus décisive pour le départ des serviteurs sous contrat, les profits financiers que l'on pouvait tirer de leur transportation par bateau.
Après avoir signé le contrat par lequel ils acceptaient de s'acquitter du prix de leur voyage en travaillant pour un maître pendant 5 à 7 ans, les émigrants étaient souvent emprisonnés jusqu'à ce que le bateau quitte le port, afin qu'ils n'aient aucune chance de s'enfuir. En 1619, la Chambre des bourgeois de Virginie, première assemblée représentative d'Amérique, née cette année-là, qui est aussi celle de l'arrivée des premiers esclaves noirs, statua sur l'enregistrement et l'application des contrats entre maître et serviteur. Comme dans n'importe quel contrat liant deux parties d'inégal pouvoir, il y avait égalité sur le papier, mais inégalité dans la pratique, les contrats étant bien plus favorables aux maîtres qu'aux serviteurs. Il y avait égalité sur le papier, mais inégalité dans la pratique, les contrats étant bien plus favorables aux maîtres qu'aux serviteurs. Les contrats étant bien plus favorables aux maîtres qu'aux serviteurs. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn. Thank you.